La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Et tout de suite, nous allons écouter la deuxième partie de la brochure Comme un chien enragé, qui est une lettre anonyme d'un détenu de la prison de la Santé sur les conditions de détention et sur la prison en général. Bonne écoute.
Il existe assez clairement une hiérarchie entre détenus. Entre les primaires, incarcérés pour la première fois, et les autres. Entre les différents types de délits, entre forts et faibles. Les détenus les plus maqués avec les matons, qui sont comme par magie souvent ceux qui possèdent shit, cam ou téléphone, auront tendance à prendre la tête de la hiérarchie. Les petits privilèges qu'ils obtiennent leur garantissent aussi un certain confort. Choix de la cellule, de ses co-détenus, possession d'un balai, plaque chauffante, douche supplémentaire, TV gratos, rab de Javel, beurre, sac poubelle et autres denrées rationnées gratos. Entre les détenus, c'est un peu celui qui aura la plus grosse entrée régulière de shit, téléphone et cam qui fera la pluie et le beau temps. Il peut monnayer tout ce qu'il veut à coup de shit, parce que les journées paraissent moins longue quand on se tabasse la tête, et le temps, qui passe vite, est un luxe en prison.
Il ne fait aucun doute que l'AP est entièrement consciente de la présence de téléphone ou de shit, mais leur présence est loin de la déranger. Un détenu défoncé est plus gérable et moins conflictuel. De plus, c'est une carte répressive en main que l'on peut jouer au moment de son choix. Et pas mal de détenus se retrouvent avec des nouvelles affaires judiciaires sur les dos pour des faits commis pendant la détention. C'est à peu près pareil en ce qui concerne les cultes religieux. Le respect de la paix pour les convictions religieuses des détenus est étonnant si on les compare à son respect inversement proportionnel pour la dignité humaine. Bien sûr, les plus intégristes demanderont toujours plus, mais pour les croyants lambda, tout est fait pour qu'ils puissent observer tous les aspects de sa foi et des représentantes de chaque culte sont présentes pour guider sa conscience en harmonie avec les besoins de la paix. La paix entre prisonniers et matons et la guerre entre détenus. Mais il y a encore bien d'autres choses qui favorisent la paix, sur lesquelles je n'ai pas la force de m'attarder, comme la TV ou les sports.
Pour quelques détenus, rien ne parvient vraiment à acheter cette paix tant souhaitée. Existe alors le passage en commission de discipline. Il existe un tableau des fautes et des sanctions à recenser, mais qui reste suffisamment flou pour que ne soit pas gêné l'arbitraire de la paix. Une même faute, selon l'interprétation, pourra être classée en premier, deuxième ou troisième degré de gravité. En commission de discipline, où l'on peut être défendu par un avocat, on fait encore moins semblant d'arrondir les angles démocratiques que lors d'un procès traditionnel au tribunal, puisque la personne qui te juge est aussi celle avec laquelle tu es en conflit. Ce sera le directeur de la prison ou n'importe quel autre sous-fifre de la paix. Les sanctions, ferme ou avec sursis, sont diverses et adaptées à la faute.
Le mitard, c'est un peu les mêmes conditions de détention que la garde à vue et on peut y rester jusqu'à une quarantaine de jours. Mais il existe aussi la menace permanente du transfert pour éloigner un détenu de ses proches et l'isoler encore plus. C'est un peu la menace permanente de la sanction dans la sanction. La prison dans la prison, qui elle-même est déjà une prison dans la prison sociale. C'est un peu le jeu des poupées russes carcérales.
Il n'est absolument pas question de dresser un tableau mensonger et nostalgique, mais du point de vue de la morale dominante en prison, du côté des détenus, la situation s'est largement dégradée en l'espace de quelques décennies. Le rapport à la lutte, à la conflictualité, la rébellion a beaucoup changé. Comme le racontent les détenus un peu plus vieux, autrefois, les choses étaient claires. Il y avait deux camps, pas trois, pas dix. Il y avait d'un côté les prisonniers, de l'autre, la matonnerie. Bien sûr, il y a toujours eu à toute époque des traîtres, des balances, des collabos et des lâches. Mais aujourd'hui, tout est plus trouble et imbriqué. La solidarité entre les prisonniers, en tant que principe, n'existe plus. Ce qui ne l'empêche pas d'exister encore ponctuellement. Le conflit avec la paix, en tant que principe, non plus. Il y a tout de même une guerre sociale à l'intérieur de la prison, la même que dehors. Mais il y a aussi une guerre civile qui s'entrechoque avec elle, comme dehors.
Résultat, Certains n'hésitent pas à balancer d'autres détenus pour un bout de shit ou pour éviter un pauvre jour de mitard. On n'hésite pas à se faire la guerre entre détenus sur des critères de couleur de peau, à mater les révoltés soi-même pour assurer sa tranquillité et son petit trafic, à sympathiser avec les matons pour pouvoir lécher quelques miettes des vases en plus. Parfois, même à les intégrer socialement au sein des détenus, à draguer et coucher avec les matons. À vrai dire, il y a autant de camps qu'il y a de couleurs de peau, et qu'une uniforme recouvre ou non la peau ne fait plus aucune différence. La prison étant remplie à très forte majorité, d'un côté comme de l'autre, des Noirs et d'Arabes. Les connivences et les complicités se font et se défont sur ces critères-là, plutôt que sur la question de qui tient les clés et qui ne possède rien.
Loin de moi l'idée de dire que ces choses-là n'existaient pas par le passé, mais seulement d'affirmer que ce qui était la norme, prisonnier vs AP, est devenu l'exception. On ne défonce plus les balances, sauf si c'est nous-mêmes qu'elles ont balancées. On ne se bouge plus pour le cas d'un autre détenu que soi-même. On ne surmonte plus nos divisions au moment de s'affronter avec l'ennemi en bleu. Il n'y a que très peu d'entraide, et les plus pauvres peuvent bien crever.
La société, au final, a peut-être réussi l'un de ses plus grands coups, dans l'une de ses tâches les plus structurelles. Réussir à convertir ses marges et à la domestiquer au point d'en faire de plus virulents défenseurs encore que la dite société. Racisme, logique identitaire et communautarisme, sexisme, domination, glorification du travail, soumission, hiérarchie, homophobie ou moralisme sont en fait encore plus présents en prison que dehors. La violence des rapports économiques y est décuplée, la violence de l'imposition de la norme aussi. Et si au fil des années, les conditions de détention se sont améliorées, les violences entre détenus, qu'elles soient physiques ou morales, n'ont en fait qu'augmenté. Alors, qu'entrapés, les prisonniers, les relations n'ont fait que se pacifier. La codétention est un peu devenue la guerre de tous contre tous, entre petits clans insignifiants, le règne absolu des prédateurs sur des proies indiscriminées. Pour un prisonnier révolté, c'est-à-dire prêt à se battre contre la condition qui lui est faite et contre la possibilité qu'une telle condition puisse être imposée à quiconque d'autre que lui-même, la détention est un voyage sur un radeau pourri, sur un fleuve enserré par deux rives peuplées d'êtres hostiles. Pris en tenaille entre les codétenus et l'administration pénitentiaire, il devient extrêmement difficile de lutter à l'intérieur, puisque la marge de manœuvre est réduite de tous les côtés de la matraque.
L'USCA et la SMPR, Unité de consultation et de soins ambulatoires et services médico-psychologiques régionales, se contentent de camer les détenus à coups de médocs distribués à la pelle comme des cacahuètes à des singes. Ces dealers en blouse blanche passent même leur temps à essayer de convaincre les détenus dès leur premier jour d'arrivée de prendre des somnifères pour dormir et des antidépresseurs pour tenir le coup. Je ne parle même pas du Subutex, substitut à l'héroïne, plus facile à obtenir que des fruits, puisque gratuit. Le CMPR est carrément un hôpital psychiatrique à l'intérieur de la tôle. On y maintient les détenus, trop récalcitrants, les plus faibles et tourmentés au stade végétatif. Des zombies, couchés toute la journée ou presque que l'on gave de pilules à gogo. Les toubibs de l'USCA, dépendant théoriquement de l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris et non de la paix, sont généralement assez paternalistes. Et il faut s'en méfier, car contrairement à ce qu'ils affirment, ce que vous leur dites ne restera pas nécessairement entre vous, puisque le secret médical qu'ils sont tenus de respecter est une vaste blague. Ils participent aux réunions de travail de la paix à propos des détenus et donc au débat sur le cas de chacun.
À cause des conditions d'hygiène, qui sont une véritable peine, dans des vieilles tôles dégueulasses comme la santé, des simples petits coups, blessures peuvent se transformer en drames. Une poussière dans l'œil peut rapidement devenir une aile extrêmement enflée, un piercing mal fait à l'oreille, une gangrène, etc. De même, la forte présence des moustiques lors des chaleurs, des rats ou des souris, cancrella et araignées participent de la sensation que chaque mur touché équivaut à une minute passée dans une centrale nucléaire en fusion.
S'ajoute à cela le sadisme des ingénieurs qui conçoivent des lits trop courts ou décalés de 7 cm du mur, ou encore des matelas plus grands que la structure bloquante en métal du lit. Du robinet qui asperge nécessairement toute la pièce, ou des bancs de salle d'attente qui font mal au cul, pour bien que tu te rappelles que t'es pas en colonie de vacances. La forêt de portes automatiques qui ne s'ouvrent que quand les autres sont fermées, pour que tu sois bien obligé d'attendre toutes les 10 secondes. Les planches qui servent de cache-toilette bien trop courtes en haut et en bas, pour que t'aies bien plus aucune idée de ce que ça peut bien être que l'intimité.
La prison, c'est un peu la liberté totale donnée à une poignée de laquais d'expérimenter leur cruauté, grandeur, nature sur des humains privés de liberté, comme un enfant triturant une poupée ou le cadavre d'une grenouille avec sadisme. Dans le rôle du gamin sadique, maton, architecte, ingénieur, constructeur, psychiatre, juge dans le rôle de la grenouille disséquée, ce bon vieux tolard à qui il faut bien faire comprendre qu'il est une grosse merde, qu'il n'existe pas pour ce monde ni pour lui-même. Le même bon vieux tolard qu'on est toujours prêt à envoyer crever pour liquider une centrale nucléaire en fusion ou ramasser des galettes de fioul sur les plages souillées par la marée noire. Celui qui construit dans un champ de coton moderne les sacs Vuitton que Madame la juge aime tant porter sur son avant-bras au bal de Noël du barreau de Paris.
Après tout, la santé a sa petite histoire en la matière. Les forçats en attente de leur transfert maritime vers le bagne de Guyane ou l'exécution des débuts du XXe siècle aux prisonniers du couloir de la mort qui attendaient la guillotine, dressés à l'angle de la rue de la Santé et du boulevard Arago, une quarantaine d'hommes ont fini leur jour guillotinés sur ce trottoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, des résistants ont été exécutés, décapités ou fusillés dans l'enceinte de la prison. C'est là que nous sommes incarcérés. Et tout est là pour nous rappeler que la prison est une barbarie, le parachèvement d'une civilisation de petits Eichmann où personne n'est vraiment responsable de ses actes et ne fait qu'obéir à ses supérieurs qui eux-mêmes obéissent à d'autres et ainsi de suite.
Pour revenir à des considérations un peu plus générales, je me demande bien comment on pourrait en finir avec la prison en laissant le monde extérieur intact. Penser la prison de façon séparée est pour moi une grande méprise, car une bonne partie de la banale horreur qui prolifère provient directement de l'extérieur. La prison n'est qu'une exacerbation de la survie, qui est déjà notre vie à l'extérieur. Dehors aussi, il faut avoir ses papiers pour circuler. Dehors aussi, nous sommes fichés et contrôlés. Les pauvres se font la guerre entre eux plutôt que de s'associer pour abolir leurs conditions. Dehors aussi, nous sommes parqués comme du bétail et nous dormons la même où nous déféquons. Barbelés, balances, verrues, portes blindées, matons, grillages, barrières, frontières existent de deux côtés du mur.
La prison existe parce qu'une société a besoin d'elle pour injecter la peur qui la maintient. Et je ne vois pas bien comment on pourrait s'attaquer à la prison sans en finir avec le monde qui la produit et en a besoin, et vice-versa. Je ne vois pas bien non plus à quoi peut servir de lutter pour des prisons plus humaines ou des alternatives à la prison, quand le réel problème transcende si largement la simple question de la prison et se retrouve dans tous les aspects de la société. Le principe même de domination et d'autorité. Nous voulons recouvrer notre liberté, mais dehors, non plus, nous ne sommes pas libres. C'est parce que je suis pour la destruction des prisons que je suis révolutionnaire. C'est parce que je suis révolutionnaire que je suis pour la destruction des prisons.
Mais il ne faut pas attendre que quelques grands soirs mythologiques pour lutter contre la tôle. De l'intérieur, les prisonniers n'ont que très peu de marge de manœuvre pour lutter efficacement contre elle. La lutte du prisonnier est une lutte pour sa propre dignité, une suite de petits combats pour garder la tête haute devant l'humiliation permanente que lui inflige l'État et ses défenseurs, pour sa survie, mais elle ne saurait venir à bout de cette société carcérale. C'est de l'extérieur que peuvent se jouer les enjeux plus larges. Attention, je ne suis pas en train de dire que la lutte du prisonnier est vaine, ni qu'il ne faut pas lutter en prison. Au contraire. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas s'intéresser à l'extérieur aux luttes de l'intérieur. Au contraire. Il faut leur donner un haut-parleur à l'extérieur et lutter tant que faire se peut aux côtés des prisonniers.
Il est important de réussir à parler de la prison de façon décomplexée, malgré les profondes souffrances. Sortir les courriers des détenus révoltés qui le souhaitent et leur offrir une tribune qu'ils ne pourront obtenir autrement que par l'aide extérieure. Il faut poser socialement la question de la prison, que personne ne puisse l'éviter, dans les rues, dans les discussions, à table, au café, au boulot, partout. Il faut briser l'isolement.
Dans le même temps, l'un n'a que peu de sens sans l'autre. Il faut diffuser l'attaque contre ces structures, critiquer en acte le business de l'enfermement, partager publiquement tout ce qui peut aider un détenu motivé à s'évader, paralyser les infrastructures carcérales et démasquer les collabos qui participent d'une façon ou d'une autre au système carcéral. Ils sont flics, juges, journalistes, constructeurs, ingénieurs, architectes, politiciens, scientifiques, matons, investisseurs, philosophes, contrôleurs des prisons. Il faut les livrer en pâture à la colère. Qu'il ne soit plus anodin de participer à l'enfermement concentrationnaire des millions de gens à travers le monde, ni d'en faire la propagande ou de les réformer pour mieux les pérenniser. Que la haine de la barbarie carcérale se dirige contre ceux qui en sont responsables ou qui les défendent, et que les murs qui séparent les prisonniers du reste des gens soient détruits. Dans nos têtes comme en réalité, l'une ne va pas sans l'autre. Réapproprions-nous la guerre sociale plutôt que de la subir, dedans comme dehors, feu à toutes les prisons.
Ainsi s'éteint l'amour, quand les jours se ressemblent, un gardien dit bonjour, attendant que l'on tremble. Dans un signe de vie, saluant son bourreau, les matins, un vautour tournoie sur mes barreaux. Il guette, il se répète, saluant sa proie. Je reste sur ma couchette, en écoutant sa voix. C'est Morgan ou Morgen, sa parole est ténèbre. Un vautour se promène sur sa langue parfois. Les êtres humains s'effacent, tenant clé de l'enfer, et le malin prend place au palace des fers. C'est malin de faire croire la prison nécessaire sur les télés, le soir, aux séries policières. Le monde est en souffrance civilisationnelle. Entrons en résistance, répondons à l'appel. Des forêts au bocage contre leurs grands projets, des manifs au blocage jusqu'au plus haut sommet.
C'est un poème qui a été écrit en prison. C'est une personne qui aujourd'hui n'est plus en prison, mais si vous voulez lire d'autres textes de cette personne, vous pouvez faire un tour sur le blog La Neige sur Hambourg.